BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bretagne, à Locronan, près de Quimper, chez Maison Cadieu, une ETI spécialisée dans les portails, les clôtures, les garde-fous, bref, l'extérieur de vos maisons et de vos logements. Sauf qu'avec le changement climatique aménagé, les espaces extérieurs changent aussi, forcément. Philippe Indelbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons en deuxième partie d'émission Finance et Climat, après Trump, après les drames à Valence et à quelques jours de l'ouverture de la COP. Comment mettre la finance au service du climat? Comment assurer la France à plus 4 degrés? On en parle avec Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group, et Philippe Zawati, directeur général de Mirova. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Bretagne, je vous le disais, à Locronan, près de Quimper, chez Maison Cadieu, spécialiste des portails, des clôtures, bref, de l'aménagement extérieur des maisons. Mais forcément, puisque ça se passe en extérieur, eh bien, le changement climatique pousse l'entreprise à revoir ses process et son business model. Philippe Indelbo est sur place avec les équipes de Maison Cadieu.
La belle histoire du jour, c'est celle de l'entreprise Maison Cadieu, une ETI familiale bretonne, leader dans la fabrication en aluminium de portails, de clôtures et de garde-corps. L'univers de l'entreprise, donc, c'est celui du jardin, de l'aménagement extérieur aussi des maisons et des bâtiments. Et puis, avec le changement climatique, aménager les espaces extérieurs, ça change aussi, forcément. Et en parlant justement de changement climatique, je vous emmène découvrir trois défis que rencontre Maison Cadieu sur les enjeux de transition écologique. On en parle tout de suite avec leurs équipes. Le premier de leurs défis concerne la traçabilité de leurs produits, parce que tout ce que Maison Cadieu fabrique est en aluminium. Vous allez le voir, alors en soi, c'est écologique, mais ça demande beaucoup d'énergie pour extraire les matières premières et les transformer en aluminium.
C'est un vrai défi que nous devons relever et que nous avons en partie réussi à relever, je pense notamment aux garde-corps, puisque nous avons lancé en fait depuis maintenant 2 ans une gamme de garde-corps pour habitat collectif. Et en fait, grâce au processus de traçabilité, nous arrivons à répondre aux exigences des grands acteurs de la construction. Il faut savoir qu'en fait, la construction en France, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre. Et notre objectif, c'est d'essayer de contribuer à la décarbonation de ce secteur. Et ce que nous faisons pour l'instant, c'est entre autres sélectionner de l'aluminium bas carbone, donc produit à partir d'énergie renouvelable, pour produire des garde-corps moins impactants et certifiés également par des tiers. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de créer ce qu'on appelle des fiches FDES individuelles et ainsi on certifie en fait que le produit est vraiment moins impactant.
Alors le problème, c'est aussi que leurs fournisseurs, qui se trouvent dans des pays tiers comme l'Espagne ou le Portugal, ne sont pas forcément au point sur ces demandes et informations écologiques de leurs produits. Ils sont d'ailleurs nombreux à ne pas être formés à ces enjeux. L'entreprise veut donc avancer sur cette question de la traçabilité avec ses fournisseurs.
On va demander à nos fournisseurs de certifier que oui, ils font bien, ils évitent le travail forcé, voilà, tous ces enjeux sociaux. On va également leur demander nous aider à avoir des données, en fait, pour que nous, on puisse répondre avec précision à notre bilan carbone, qu'on puisse avoir des faits.
Bonjour Emmanuel Cadieu.
Bonjour Thomas.
Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise. Donc Maison Cadieu, votre ETI familiale. Vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous apporte des solutions. Et c'est Maximilien à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour,
bonjour
Maximilien.
Bonjour Emmanuel, bonjour Thomas.
Maximilien Rouet, associé chez Mazars en charge de la transition climatique des entreprises. Maximilien, on va dans le vif du sujet. C'est une question compliquée qui est évoquée dans ce sujet. Comment est-ce qu'on peut aider Emmanuel a amélioré la traçabilité de ses fournisseurs?
Alors, c'est une question d'autant plus compliquée que pour une tonne d'aluminium, il nous faut 4 tonnes de bauxite. La bauxite, c'est le matériau primaire, c'est le minerai. Et il se trouve que cette bauxite, même si le nom est né en France, au Beau-de-Provence, cette bauxite est principalement importée et souvent de très très loin, Amérique du Sud notamment, pour ne parler que de là. Donc, on a bien un sujet. Imaginez réduire en poudre 4 tonnes de minerai la bauxite pour obtenir 2 tonnes d'alumine, un intermédiaire, tout ça pour obtenir 1 tonne d'aluminium. Et au bout, vous avez l'entreprise Cadieu qui se dit « mais j'aimerais avoir un aluminium zéro carbone, comment je fais ?» Et là, on a tout un portefeuille de solutions, mais qui passe notamment par la sélection d'un fournisseur qui, notamment, aurait une énergie décarbonée. Ouais. On va parler d'hydraulique, par exemple, ou évidemment des énergies renouvelables, ou encore de nucléaire. Et là, c'est le choix de l'entreprise.
Ouais. Mais sauf que parfois, vous avez du mal à faire ce choix. Vous, on l'a entendu dans le reportage, tous les fournisseurs ne peuvent pas vous répondre, ne savent pas eux-mêmes.
C'est pas une mauvaise foi, c'est qu'ils n'ont pas les, voilà. En plus, les billettes d'aluminium, ce sont des morceaux d'aluminium d'à peu près un mètre de long. C'est à peu près gros comme un tronc de peuplier. Et eux, ils vont utiliser plusieurs sources de billettes d'aluminium pour faire une commande. Donc, c'est très difficile pour eux de savoir quelle billette ils vont mettre dedans. Je pense qu'il faut plutôt coopérer avec eux. Il faut leur expliquer que c'est une obligation.
C'est-à-dire les former vous-même,
en fait. Il faut les former, voilà. Il faut les acculturer à cette nouvelle, à ce nouveau paradigme. Mmh. On doit tous faire l'effort d'être plus transparent. Et après, nous, on peut aussi travailler pour trouver des billettes d'alu qui ont été, on est certain, bas carbone. Donc, il y a des groupes norvégiens, par exemple, qui ont de l'aluminium bas carbone et qui ont la certitude d'où sortent également la bauxite d'aluminium. Ils ont leur propre mine.
Ouais.
Donc, on a moyen de tracer. Par contre, ça coûte un peu plus cher. Mais ça permet aussi d'avoir des fiches FDES nickel pour les grands donneurs d'ordre comme Eiffage qui nous confient ils ont besoin
d'avoir demandeurs aussi.
Voilà, ils ont besoin de baisser leur bilan carbone de l'immeuble. Donc grâce à nous on peut leur donner cette certitude.
Maximilien,
juste pour rendre concret pour nos auditeurs, imaginez la complexité, rien n'est plus identique à au voisin qu'une molécule d'aluminium.
Ouais, ouais,
aluminium égale aluminium.
Ouais, ouais.
Donc il n'y a pas écrit aluminium mexicain, aluminium chilien, aluminium norvégien.
Ah, ouais.
Donc vous avez besoin d'un processus digital de suivi et de normalisation et de certification pour que, in fine, quand l'entreprise Cadieux récupère ses billes, elle puisse identifier telle proportion, 3% qui vient de tel endroit, 18% de tel autre. C'est toute une supply chain qu'il s'agit de restructurer, de redigitaliser avec cette optique de traçabilité de l'origine de la molécule.
Alors,
c'est un sacré challenge.
Sacré challenge, comme vous dites. Décarboner la traçabilité, donc ça passe par réduire les émissions de vos process, mais c'est aussi moins produire, tout simplement, en améliorant la durée de vie de vos produits. On retourne sur place chez vous, donc à Maison Cadieux avec Philippine.
Alors, le deuxième défi maintenant rencontré par l'entreprise Maison Cadieux, c'est aussi la réparabilité, la durabilité de leurs produits. L'objectif, bien sûr, c'est que ces produits, justement, ils durent le plus longtemps possible. Mais comment faire ? C'est toute la question.
Alors ici, on est au niveau de notre zone retour. Là, on a quelques portails qui sont derrière. On a l'exemple, par exemple, de ce portail-là qui vient d'arriver ce matin. Voilà, c'est une erreur de cote d'un client sur sa prise. Donc, aussi bien, ça aurait pu être une erreur de chez nous. Bon, là, c'est une erreur de prise de cote. Dans l'idée, c'est de pouvoir reprendre le portail, le remettre à niveau, le remettre à la bonne cote pour ensuite pouvoir le remballer, le réexpédier. Dans ce flux retour, on en a profité aussi pour faire remonter tous nos déchets d'emballage. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer là, avec nos clients. Alors nous, on appelle ça riboule en breton. Riboule, c'est faire le tour et puis faire la ramasse, comme on dit. Et donc là, on a récupéré un pas mal de coins polystyrène qu'on va pouvoir peut-être réutiliser certainement dans les futurs conditionnements de nos portails qui se situent juste derrière.
Grâce à Maison Cadieux, on apprend aussi un peu le breton. Maximilien, on vient de voir un exemple très concret là, d'économie circulaire, mais comment est-ce que l'entreprise peut généraliser, enfin en tout cas aller plus loin dans la réparabilité des produits ?
Déjà, je tiens à souligner la singularité de l'entreprise Cadieux, qui est historiquement une menuiserie. Donc le menuiserie, c'est du bois. Le bois, on découpe, et puis c'est tenon-mortaise, si vous vous souvenez. Donc tenon-mortaise, ça se monte et ça se démonte. Aujourd'hui, c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est pas tenon mortaise. C'est souvent de la soudure. Merci. Et cette soudure, elle est absente chez Maison Cadieux. Ce qui fait qu'on va garder l'intérêt et les techniques de la menuiserie qui sont montées et démontées, comme un petit ou un gros mécano. Et cette fois-ci, c'est dans l'intérêt non plus de quelques petites pièces de jeu, mais vous l'avez vu à la taille du portail, sur des pièces qui peuvent faire 4 mètres, voire 5 mètres de large. Donc on va, quand on a un petit accroc, plutôt que de tout jeter si c'est une soudure, on a l'opportunité de réparer. Là, je trouve que c'est une très belle innovation, finalement historique, mais majeure, qui permet à Maison Cadieux d'avoir quand même 25% et en croissance de part de marché sur le portail, mais qui est aussi complètement inscrite dans les démarches de développement durable, puisque quand c'est réparable, on n'a qu'un tout petit bout à changer, c'est quand même vachement pratique.
Emmanuel Cadieux, tout à l'heure, vous disiez certifié, produire plus vert, ça coûte un peu plus cher. Ils sont prêts, vos clients, à ça ? À payer plus ? Donc ça dure plus longtemps.
Les grands donneurs d'ordre, ils sont obligés de toute façon à faire baisser les bilans carbone de leur construction d'immeubles. Donc ça leur est imposé. Pour nous, les particuliers qui achètent des portails, il y a une sensibilité certes, mais ils sont surtout sensibles à la durabilité. Le fait qu'ils vont investir dans un portail, un certain nombre de kilos d'aluminium qu'on va utiliser sur la planète, le mieux qu'on puisse faire, c'est qu'il soit durable. Donc nous, nos produits sont garantis 25 ans. On va passer à 30 ans de garantie. L'entreprise Maison Cadio a 50 ans. Mon grand-père était menuisier, mon père était menuisier, mes enfants souhaitent devenir menuisier également. Donc voilà, on est une chaîne de pérennité qui permet aussi de créer cette garantie, cette confiance. Bon. Et après, voilà, c'est vrai que nous, on a commencé à fabriquer tonneaux mortaises et c'est devenu un atout. Donc dans des belles entreprises, je pense qu'il y a des atouts RSE qu'il faut juste peut-être regarder d'un autre œil qui pourront devenir un atout pour la planète.
Alors, on a parlé décarbonation, on va retourner une dernière fois sur le terrain avec Philippines pour parler adaptation, parce qu'évidemment, votre activité, par définition, elle est exposée au changement climatique.
Allez, on passe au troisième défi, et c'est forcément celui de l'adaptation. L'entreprise réfléchit aux produits de demain, pour le jardin, pour l'extérieur des logements, adaptés chacun au changement climatique. Elle cherche de nouveaux produits, en fait, qui résisteront au climat de demain, et pour surtout ne plus être dépendante d'un seul produit, le portail.
On travaille sur de nouveaux projets. Donc on a la partie portail bois qu'on est en train de qualifier au niveau des matériaux à utiliser. La partie pergola sur laquelle on fait donc des tests concernant la résistance à la pluie, à la neige, au vent. Et dernièrement, on a donc un portail qu'on a travaillé avec une lauréate du concours Lépine. La problématique étant de résister en fait au vent, au bourrasque de vent. Donc on a travaillé avec elle pour avoir un portail qui s'ouvre automatiquement dès lors qu'il y a de fortes bourrasques pour éviter en fait des phénomènes de portails qui s'envolaient ou qui tombaient en fait avec les tempêtes. Le portail est installé chez le client avec une motorisation intégrée dans les montants. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un capteur de vent qui, dès lors qu'il est animé, en fait, au-delà d'un certain kilométrage, met en fonction un moteur qui est dissimulé dans un des renforts et donc actionne les lames pour laisser passer en fait le vent et éviter qu'il soit directement en contrainte.
Bon, et on l'a entendu justement, le vent et les bourrasques, c'était sans trucage. Maximilien, il nous reste une minute. Il est très intéressant, je trouve, cet exemple, parce que ça montre concrètement qu'est-ce que c'est l'adaptation. Ce sont vraiment des réponses concrètes, sur mesure, à un défi climatique.
Que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut installer. Voilà. Avoir en tête que le gouvernement vient de publier son troisième plan national d'adaptation.
Oui, mais justement, ça c'est des plans. Voilà. Là, l'adaptation, c'est ça.
Exactement. Mais ça, par exemple, c'est ça. Ce sont des ombrières, ça a été dit par le monsieur à l'instant. Ce sont des portails qui peuvent résister aux bourrasques et on l'a vu à Valence, au coulées de boue. On est dans un schéma où ce qui nous arrive, c'est maintenant et les industriels qui sont déjà prêts ont clairement une longueur d'avance.
Emmanuel, justement, alors, le changement climatique, comment est-ce que vous projetez votre entreprise là-dedans? Est-ce que vous dites que l'extérieur des bâtiments, des logements, ça reste un métier d'avenir?
Ah oui, je pense complètement. Et c'est vrai que la protection solaire, la protection de la lumière dans les maisons, grâce aux pergolas, pour abaisser le niveau de la chaleur dans les maisons, on va avoir des protections solaires autour des maisons. Il faut aussi voilà, que nos produits résistent au vent avec les grandes bourrasques. Ah oui, il y a un avenir. Il y a l'aménagement d'espaces de vie individuel, mais également collectif, qui va devoir être très important. Donc oui, c'est un bel avenir devant nous.
Pour vous, vos enfants, les 50 prochaines années de Maison Cadio. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très concret, ça nous a permis de nous projeter dans l'avenir du modèle économique de votre entreprise. Emmanuel Cadio, directrice générale de Maison Cadio, et Maximilien Rouet, associé chez Mazars en charge de la transition climatique des entreprises. Allez, on a parlé portail et jardin, pour faire simple, on va parler maintenant gros sous et comment mettre la finance au service du climat. Comment mettre la finance au service du climat? Comment assurer une France à plus 4 degrés? On en parle avec Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group. Bonjour Adrien.
Bonjour Thomas.
AEMA Group, on le rappelle, c'est Aizio, La Massif, Abeille Assurance et Ophi Invest. Et avec vous Philippe Zawati, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes le directeur général de Mirova, la filiale d'investissement durable de Natixis Investment Manager. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau à quelques jours de l'ouverture de la COP. On va évidemment parler du financement de la transition parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Mais on va d'abord parler d'adaptation vu de l'actualité dramatique en Espagne. Et je commence avec vous, Adrien Couret. Comment est-ce qu'on fait pour assurer des villes, des régions, des pays qui ne sont pas prêts au changement climatique?
Ça va être de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, souvenez-vous, la COP de Paris, qui est un peu notre espace de référence, on parlait d'un réchauffement à plus 1,5. Il y a une publication scientifique aujourd'hui qui a dit qu'on y était déjà au 1,5. Et pour l'assureur, mais d'abord pour les populations, l'effet, il est clair. Il y a plus de changements climatiques, il y a plus d'événements catastrophiques. On l'a vu malheureusement en Espagne, mais avant ça dans le sud de la France, avant ça dans les Hauts-de-France. La sinistralité climatique, dans les 30 ans qui viennent, elle va tripler. Et elle a déjà triplé sur les 30 dernières années.
D'accord.
Donc il y a quelque chose de majeur qui arrive, qui est un sujet d'assureur évidemment, mais qui est d'abord un sujet pour les populations qui arrivent. Alors comment on peut faire là-dedans ? L'assureur, il a un certain nombre de leviers. Il peut choisir d'augmenter ses tarifs. C'est un élément qui est possible.
C'est déjà un peu le cas.
C'est déjà un peu le cas parce que quelque part, on indemnise beaucoup plus. Mmh. Il a des leviers qui peuvent être des leviers de prévention. Il a des leviers qui peuvent être de décarbonation. Par exemple, sur les 10 dernières années, on a beaucoup augmenté la façon dont on réparait les véhicules. Aujourd'hui, 20% de la réparation d'un véhicule, ce sont des pièces de réemploi qu'on ne reproduit pas. Il y a le sujet de la finance sur lequel Philippe sera beaucoup mieux placé que moi. Les leviers, ils existent, mais mon message principal, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se limiter à la question de l'assureur. Quand des territoires entiers sont en difficulté...
Bien sûr, mais vous, en l'occurrence, vous dirigez un groupe d'assurance. Quand on voit ces images-là, quand on voit ces territoires, est-ce que, vous dites, il y a des leviers à actionner, est-ce qu'un des leviers, c'est d'abandonner des territoires, de se dire, je ne peux plus assurer ?
Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Les inondations dans les Hauts-de-France ont vu les premiers réfugiés climatiques en France, avec des gens à qui on a dit, vous ne pouvez plus habiter là. Et il y a un outil d'ailleurs qui s'appelle le fonds Barnier, qui permet de racheter leurs biens et de faire en sorte qu'ils s'installent ailleurs. Quand on parle d'assurabilité, de problèmes d'assurance, en réalité, ce qu'il y a très vite derrière, c'est l'habitabilité. Comment faire en sorte pour que demain, on puisse habiter, investir, cultiver sur le territoire français ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase d'adaptation où les politiques doivent se saisir de ce sujet.
Ouais, Philippe Zawati, vous, donc société de gestion, quel rôle vous avez à jouer dans l'adaptation ? Est-ce que vous en avez un ou pas ?
Tout autant que dans la réduction des émissions, c'est les deux, volets. Mais adaptation, évidemment, mais même probablement plus encore dans les années qui viennent, parce que la réalité, c'est que les infrastructures de demain sont pas encore construites. La plus grande partie des infrastructures dont on va avoir besoin dans les 30 prochaines années, elles ne sont pas encore là. Il va falloir les construire. Et si on les construit pas de façon durable, on va aller encore plus vite dans le mur climatique. Et puis, il y a évidemment toutes les questions de l'adaptation. L'adaptation, c'est extrêmement large. C'est refondre complètement la façon dont on fait notre agriculture. C'est les infrastructures.
Oui, il y a tout à faire.
C'est les équipements des villes. Tout ça nécessite des investissements majeurs. La rénovation thermique des bâtiments, tout ça nécessite des investissements qui sont considérables. Donc oui, effectivement, la finance a un rôle à jouer là-dedans parce qu'elle définit en quelque sorte un peu les standards du monde que l'on veut construire.
Alors, tout ça coûte cher, mais moins cher que l'inaction. Et c'est un peu ça qui est dramatique aussi. On l'a vu en Espagne, ça va être un premier plan d'aide de 10 milliards d'euros dépensés par les pouvoirs publics. On le sait, donc l'inaction coûte plus cher que l'action. Comment est-ce qu'on fait pour inciter les États à agir ? Parce qu'on a beau le dire et le répéter et le voir... Les États, visiblement, ne vont pas assez vite.
Alors, je pense que malheureusement, il y a un rôle pédagogique des crises. Ce que je dis peut paraître horrible, mais c'est une réalité. Et je pense que la dimension espagnole, elle a un rôle absolument majeur par rapport à ça. Il faut bien voir que quand on parle de rénovation ou de construction des infrastructures de demain ou de conversion, beaucoup de choses dépendent du champ public. Parce qu'il y a un legacy, il y a un historique de là où on a construit. Et ces choix de se dire, il y a des territoires sur lesquels on ne peut pas rester en l'état, et donc d'une certaine façon, il faut investir, et il peut y avoir des logiques de public-privé. Mais pour bâtir les bons projets, identifier les bonnes façons de reconstruire, on peut construire à des endroits qui restent inondables, mais par exemple pas de la même façon, ça nécessite des projets qui aujourd'hui n'ont pas de lieu où on les détermine. Derrière, c'est du financement finalement assez classique de projet. Et on peut mobiliser des filières industrielles, on peut mobiliser des filières de construction, on peut mobiliser des financements publics et privés. Moi, je crois que la prise de conscience, au niveau public, elle n'a pas encore eu lieu. Et c'est là où notre secteur a un véritable rôle d'alerte. Quand nous disons que nous ne voulons plus investir...
Il va falloir alerter un peu plus fort alors, André.
Bien sûr. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus d'assureurs dans le gouvernement, c'est sûr.
Philippe Zawati.
Non, mais sur la question du public, je crois qu'il y a tout derrière la question de la régulation et de la réglementation. Qu'est-ce qu'on demande au public ? On lui demande effectivement de guider les investissements, de faire des accords internationaux qui vont poser les bases pour que ensuite le secteur privé puisse juger dans quelle direction on va aller, mais il y a toute cette question de la réglementation. Or, on est aujourd'hui, quand même, il faut bien le dire, dans une phase où il y a une pression extrêmement forte à la déréglementation.
Tout à fait.
Et ce qui s'est passé avec les élections américaines en est un exemple extrêmement clair et va probablement avoir des impacts extrêmement forts dans les, ouais, dans les années qui viennent. Donc, il y a une pression très forte à la déréglementation de la part des entreprises, et notamment parce que il y a aussi une opportunité de croissance très forte qui arrive demain avec, ouais, avec la tech, avec l'IA, qui nécessite, enfin en tout cas dont les entreprises pensent que ça nécessite une déréglementation, ouais, pour aller encore plus vite.
Mais pas que sur l'IA et la tech, hein, en général. Mais
Mais exactement, mais ça va. Et donc, ouais, le rapport.
Mais vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Le rapport Draghi, c'est ce qu'il dit. Oui, oui et non.
Est-ce qu'on peut être d'accord avec, oui, le rapport et Draghi et la CSRD?
Mais je pense que oui. Je pense qu'on peut être d'accord.
Comment, alors ?
Parce qu'en fait, quand le rapport Draghi dit c'est à cause de la déréglementation qu'on a eu une désindustrialisation européenne, c'est évidemment pas exact. C'est pas la réglementation environnementale qui a entraîné la désindustrialisation.
Pas qu'environnementale, mais ouais.
Mais même pas du tout. En fait, c'est la libéralisation de l'économie qui a entraîné la désindustrialisation européenne. Aujourd'hui, on a besoin d'une réglementation, mais d'une réglementation qui prenne en compte les questions de souveraineté et les questions de compétitivité.
Mais donc, est-ce qu'elle est bien faite, cette CSRD? Parce que c'est ça le sujet dont on parle. Est-ce qu'elle est bien faite ou est-ce qu'il faut revoir la copie, comme le demandent la France et l'Allemagne?
Mais la CSRD, c'est un outil de mesure. Si on voulait aller vers une adaptation massive du territoire en France avec à la clé des investissements, une croissance économique, il faudrait décider que, comme il y a eu une époque, on a choisi des pôles de compétitivité sur des territoires et sur des secteurs, de se dire il y a 10 zones en France qui sont menacées par le changement climatique, on mène un plan massif d'adaptation, ça coûtera moins cher en prévention et surtout ça créera de la croissance. Ça permettra d'inventer de nouvelles façons de construire, ça permettra d'inventer de nouvelles façons de vivre dans l'espace public et ça développera des filières d'excellence. Ben, qui sont des marchés en fait de demain également pour nos entreprises.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il faut définir 10 zones les plus menacées, mais en vrai c'est tout le pays qui est menacé, non? L'adaptation, il concerne tout le monde, plus ou moins, mais tout le monde.
Oui, avec une intensité qui n'est pas la même. Vous habitez à Saint-Malo, c'est pas la même chose que si vous habitez à Strasbourg.
Non, bien sûr.
Il y a aujourd'hui une vision de la cartographie qui est assez claire sur. Il y a des risques qui concernent les deux tiers du territoire qui sont la sécheresse. Ça, aujourd'hui, on expérimente la façon dont on peut faire évoluer l'habitat ou l'adapter pour que les maisons soient moins sensibles sur le sujet. On a vraiment des expérimentations concrètes. Le risque très sensible, c'est l'inondation. C'est celui qui surprend, c'est celui qui cumule à la fois les pluies torrentielles, la submersion marine.
C'est l'événement extrême.
C'est l'événement extrême, c'est l'événement spectaculaire, c'est l'événement qui peut coûter des vies. De façon très forte. Les 10 zones territoriales.
Ouais. Mais toute la problématique, c'est que les événements extrêmes restent malgré tout des événements extrêmes. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas tous les jours. Ce qui est en train de se passer.
De plus en plus fréquemment.
Oui, mais de plus en plus fréquemment, mais de façon, j'allais dire, discrète. C'est pas quelque chose de continu. Non. Et donc, c'est ça qui rend la réaction extrêmement difficile. On a une réaction sur le court terme, au moment donné, mais sur les politiques publiques de long terme, c'est beaucoup plus difficile à convaincre, effectivement, qu'il faut modifier, notamment, la façon de faire et les règles.
Je t'en prie, Philippe.
Non, juste pour CSRD, pour dire un mot là-dessus. Ouais. Pour moi, CSRD, il faut bien comprendre que c'est le marché qui, en réalité, demande ça. C'est peut-être un peu paradoxal de le dire, mais la réalité, c'est que c'est le marché qui veut de plus en plus de données. Le marché va avoir...
Le marché, c'est les investisseurs.
Mais bien sûr.
D'accord.
Mais oui.
Ouais, ils veulent la donner. Ouais.
Si vous voulez. Mais à commencer par nos clients assureurs et nos clients, les grands
Exactement.
Investisseurs.
Moi, je fais partie d'un groupe qui très tôt est allé sur la question de l'ISG ou de l'ISR. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Certains le font très bien, comme Mirova. D'autres le font très mal. Moi, CSRD, je vois comme une exigence sur l'information délivrée, qui permettra d'identifier quels sont les vrais investisseurs qui vont, les vraies entreprises qui vont véritablement sur la transition.
C'est de l'anti-greenwashing.
Bah, pour moi, oui, effectivement. Alors après, on peut toujours discuter de l'implémentation, de la vitesse de ça, d'un principe de proportionnalité entre des grandes structures, des petites structures. Mais c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Il faut bien voir que l'information extra-financière, elle est majeure pour investir. Savoir si une boîte, par exemple, a aujourd'hui un immobilier, une exploitation qui est dans une zone qui, demain, pourrait être justement inondée. Le temps du strictement financier est fini. Il est vraiment totalement terminé. Et on a besoin de CSRD. Si on n'a pas CSRD, il y aura des informations disparates. Il y aura des informations... mal bricolé, et ça c'est un vrai risque en termes
d'information. J'aime bien le mot bricolé. Merci à tous les deux, Adrien Courret, directeur général d'AEMA Group, et Philippe Zawati, directeur général de Mirova. C'est déjà la fin de BFM Climat. Merci à la CEC pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission, et bien sûr merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors je sais ce que vous allez me dire, où est Antoine Poincaré et son journal du climat? Eh bien Antoine est en Inde en ce moment, si vous voulez tout savoir. Il reviendra dans 2 semaines, donc il va falloir patienter un petit peu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat, et toute l'équipe de la Climate House sera ici en plateau. D'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.